ensemble, ici, Radio Livre.
Radio Livre, la radio des initiatives.
Bonjour et bienvenue en direct du marché des producteurs d'épiles. Nous sommes ici donc avec Radio Livre et ensemble ici pendant une heure pour une émission ce soir un peu particulière puisqu'elle sera en deux temps. Donc un premier temps qui sera consacré à l'Ayurveda et un deuxième temps qui sera consacré à l'école de Bouvières. Donc première partie de l'émission, nous allons parler un peu de l'Ayurveda et avec nous ce soir nous avons Natacha. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Alors, je te laisse te présenter ton activité.
Donc, moi, je suis praticienne de massage ayurvédique.
Mmh.
Et je pratique ici, au Pile, et aussi à Bulles-et-Baronny.
D'accord.
Voilà, donc, j'ai une formation de shiatsu. J'ai été formée pendant 2 ans à Marseille, à la CYM. S-Y-M, c'est... Shiatsu, yoga et méditation à Marseille.
Mmh.
Et donc là, j'ai appris donc, la médecine chinoise, en l'occurrence, parce que dans le shiatsu, c'est la médecine chinoise, même si c'est un massage japonais.
Mmh.
Donc j'ai une approche des méridiens.
Ouais.
Voilà, et aussi une approche du corps humain dans sa globalité. Et là, donc, première approche aussi avec le toucher, le shiatsu. Dans cette formation, on apprend vraiment à toucher une personne, l'intention qu'on y donne, etc.
D'accord.
Donc ça, pour moi, ça a été vraiment très formateur pour la suite. Et ensuite, j'ai fait 2 mois. Je suis partie en Inde, grand voyage, dans une clinique ayurvédique.
D'accord.
Et dans cette clinique, j'ai appris d'abord à observer beaucoup les soins différents, puisque là, c'est vraiment, j'approchais la médecine dans ce que ça comporte, vraiment des soins pour des gens qui étaient vraiment malades. Et ensuite, j'ai eu droit à une formation en particulier en théorie aussi, tout en anglais, avec le médecin chef de la clinique et une formation de massage bien-être Abhyanga ayurvédique. Voilà.
D'accord.
Donc il y a 2 volets en Ayurveda, c'est le bien-être et la médecine à proprement dit.
D'accord, ok. Alors on reviendra un peu plus tard sur ces pratiques. À tes côtés, Natacha, donc nous avons Philippe Rivaud. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Olive.
Alors, Philippe, tu es écrivain et apparemment spécialiste de la culture de l'Inde.
C'est donc, vrai. Oui.
Tu as écrit des livres concernant la nature, l'écologie.
Exact.
Les plantes aussi.
Les plantes, oui.
Alors, comme tu connais bien l'Inde et sa culture, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les origines de l'Ayurveda, en fait ?
Alors, l'Ayurveda est la médecine de la connaissance de l'Inde. C'est-à-dire que c'est Veda veut dire connaissance par elle-même. Donc, c'est un peu un mode d'emploi, on va dire même de l'univers, ou de notre, au moins de notre Terre, qui comprend toutes sortes de discipline, que ce soit donc la médecine ayurvédique ou le yoga, ou alors la science de l'architecture, de la géométrie. Ça peut être aussi la cuisine qu'on connaît bien, la cuisine de l'Inde, et ainsi de suite. Enfin, c'est énorme, c'est une, et surtout donc la philosophie, la sagesse qu'il contient. Et donc le Veda connaissance, et là-dessus on ajoute Ayur qui veut dire elle. La longévité. Donc, d'accord. En fait, cette médecine, c'est comment vivre bien et très longtemps.
Ok.
Hein, enfin, bien et très longtemps, oui. Comme on dit de nos jours, il ne faut pas essayer d'ajouter des jours à notre vie, mais plutôt une vie à nos jours.
D'accord.
Donc, c'est ce que l'Ayurveda propose, tu vois, d'avoir un bien-être quotidien et ainsi de suite. Donc, c'est une médecine qui est répertorié ayant plus de 5000 ans.
Mmh.
Et il y a déjà 2000 ans, on a les écrits de la Charaka Samhita qui sont les écrits sur la chirurgie. Donc, il faisait des opérations déjà chirurgicales à cette époque-là. Mmh. Et donc, c'est une très vieille médecine. Si bien que tout le monde connaît l'histoire du Bouddha qui est né aussi en Inde et tout ça. Et quand le Bouddha est parti, les moines, que ce soit les moines chinois et ainsi de suite, sont venus en Inde pour chercher les textes. Et ils ont pris donc la médecine ayurvédique. D'accord. Qu'ils ont eux-mêmes adapté en temps, lieu et circonstance, que ce soit en Inde ou dans d'autres pays d'Indonésie. Et donc, c'est devenu la médecine chinoise, dans un sens, comme Natacha parlait des méridiens et tout ça. Donc, voilà, ils ont développé, eux, dans leur sens, avec surtout l'acupuncture, ainsi de suite, le chiatsu. Et l'ayurveda aussi, un peu pareil, mais c'est plus avec les mains, c'est plus, on va dire, c'est un peu plus doux dans ce sens-là.
Alors donc c'est une médecine assez complète en fait, hein, si j'ai bien compris.
Oui, c'est une médecine holistique, on va dire, qui emploie vraiment tout. C'est-à-dire, comme on a parlé du yoga, ça emploie le massage, ça emploie toutes sortes de thérapies à base de plantes, bien sûr, et la chirurgie, ça emploie la psychiatrie, ça emploie vraiment...
L'alimentation aussi.
La diététique est très important, ça c'est vrai. Ouais. Et comme on le verra peut-être à la fin, où on l'entendra, même les sons, la musique et tout.
D'accord.
Ça. Donc ça c'est...
Très intéressant.
C'est une médecine vraiment complète.
D'accord. Donc on va peut-être revenir particulièrement avec toi Natacha sur les... Notamment tu as parlé de massage en fait. Philippe, donc toi, Natacha, tu pratiques des massages donc d'Ayurveda, c'est ça ?
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette activité et comment elle est perçue ici, puisque donc c'est plus une culture indienne, comment est-ce qu'elle est perçue ici, chez nous, cette pratique de massage, selon toi ?
Alors, bon, pour la question dans l'ordre, tout d'abord, c'était... Comment est-ce que je pratique les massages ayurvédiques. Donc moi j'ai deux soins, j'ai un soin qui s'appelle champi, ça vient de shampoing. Et c'est en fait en hindi c'est la tête. Donc c'est un massage de la tête qui commence par les épaules, la nuque, la tête, le visage. Et donc c'est un massage vraiment un programme anti-stress. D'accord. Très profond, très puissant en fait.
Okay. Ouais.
Parce qu'on emmagasine énormément de choses dans les épaules, dans la nuque, dans la tête.
Ouais.
Parce que on utilise beaucoup notre mental aussi, il est très sollicité. Et du coup, le fait de masser la tête, ça relaxe vraiment en profondeur et on lâche, on lâche le mental et ça nous fait vraiment du bien dans ce sens-là.
Donc ça
et aussi les épaules, parce que quand on est devant un ordinateur toute la journée ou qu'on a une activité assise dans un bureau, ça nous permet... On a beaucoup de douleurs aux épaules.
D'accord.
Et donc ce massage-là est vraiment spécial pour ça. Et ensuite, je fais aussi un massage qui s'appelle Abhyanga. Donc là, c'est vraiment le massage bien-être typiquement indien du Kerala, du sud de l'Inde. Et il est pratiqué avec des huiles chaudes. Parce que les huiles chaudes, c'est utilisé pour contre les douleurs, en fait. L'huile chaude, en particulier. Normalement, en Ayurveda, on utilise différentes huiles aussi par rapport aux doshas. Donc les doshas, c'est encore un autre sujet. Et là, moi, par contre, je ne m'aventure pas là-dedans. Je reste dans une huile assez douce, qui est l'huile de tournesol, en fait.
D'accord.
Qui correspond aux trois types de personnalité, disons, de l'humain.
Alors, tu peux nous les décliner,
ces personnalités ? Donc, il y a Vata, Pitta et Kapha.
Okay.
Vata, ça correspond à l'air. Pitta, ça correspond au feu. Et Kapha, ça correspond à la terre et à l'eau.
Okay.
Et Vata, c'est aussi l'éther. Donc, en fait, quand on est, à notre naissance, on a un karma, une destinée et un type, une personnalité qui nous est attribuée par... voilà, à notre naissance. Donc, à partir de ça, on peut, enfin, par rapport à ça, on peut observer une personne et dire si elle est vata, pitta ou kapha. Ça veut dire, par exemple, ça va se résumer à sa façon de digérer, la texture de ses cheveux, la brillance de ses yeux, la couleur de sa peau, son caractère, sa D'accord. façon de dormir. Ça va vraiment dans tous les domaines. Et là, ça... on a un questionnaire et on peut définir si la personne va être plus pitta, vata ou kapha.
Et en fonction de ça, tu vas orienter ton massage.
Voilà, moi j'oriente mon massage.
Ouais. Oh, okay.
J'oriente D'accord. le massage en disant par exemple une personne pitta, c'est une personne qui est plutôt qui a tendance à être colérique, plutôt une peau rouge, plutôt. Ouais. Enfin voilà, un caractère qui a besoin d'être plutôt calmé.
Okay.
Donc ça va être un massage plutôt doux. Une personne qui est kapha, c'est une personne qui est plutôt prépondérante. Qui a tendance à être fatiguée, etc. Donc je, là, je vais lui faire un massage dynamique.
D'accord.
Et vata, ça sera un massage plus profond.
Ok.
Voilà.
Très bien.
Donc il y a des caractéristiques comme ça. En observant les gens au fur et à mesure, on apprend à les reconnaître.
Donc tu nous as expliqué que dans l'intention du massage, il y a la gestion du stress, tu nous disais.
Oui.
Alors moi, j'ai envie de te poser une question. Donc... on en parle beaucoup, nous, du stress chez nous. Pourquoi, selon vous, et du coup, je me tourne vers toi aussi, Philippe, pourquoi, selon vous, tous les gens ne sont pas plus réceptifs au massage? Quels sont les freins, selon vous, qu'il peut y avoir par rapport à des soins de massage, peut-être dans les représentations qu'ont les gens par rapport à cette activité?
Moi, je pense que d'abord, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale.
Okay.
C'est un point important.
Ouais, ok.
C'est parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et les gens, en fait, pensent qu'un massage est cher.
OK.
Mais en fait, bon, ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens qui font un massage à 80 euros. Bon, ben, il faut déjà avoir les moyens.
Oui.
Surtout dans nos régions, c'est surtout ça. Parce que à Paris, les gens se permettent de se faire un massage à 80 euros sans problème. Donc... je crois qu'il y a un préjugé là-dessus, c'est-à-dire que le massage est réservé peut-être à une classe de personnes qui vont aller se détendre dans les spas, dans le bien-être, etc. Et qu'il y a des personnes qui ne se permettent pas de s'offrir ça.
De s'offrir ça.
Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme frein
Peut-être, Philippe, tu penses à autre chose?
Disons qu'on n'est pas dans une culture du massage. On n'est pas dans un... On nous a pas... dans notre culture, on n'est pas dans la, vraiment dans la prévention. Puisque moi, je suis dans les plantes et tout ça. On voit... on attend d'être malade pour soigner. Alors que généralement, si tu vas chez le médecin ayurvédique ou le médecin chinois, d'ailleurs... C'est pour rester en bonne santé. Tu es en bonne santé et tu veux rester en bonne santé. Donc, tu vas voir si ton mode de vie, ton hygiène de vie correspond bien, si ça va bien, si tu es bien équilibré. C'est ça l'idée. Donc, c'est un système, voilà, c'est préventif. Et comme disait Natacha, bon, bah, on ne rembourse pas la prévention, on va rembourser la maladie. C'est
dommage, oui, oui.
Tu vois, on attend que le. Voilà, on va guérir parce que la personne est malade.
Oui, on traite le symptôme et pas forcément la cause.
Voilà, tout à fait, exactement. Donc ça, ça joue énormément. On espère que ça vient. Tout change n'importe comment. Donc,
Et puis il y a peut-être aussi un rapport avec le fait que ce soit le toucher, que ce soit corporel. Il y a peut-être des gens que ça refroidit ou des gens qui sont un peu réfractaires à ces pratiques. Tactile, on va dire.
Oui. Ben, disons, c'est pour ça que moi, je propose les deux, en fait. C'est-à-dire que là, le massage champissage, c'est un massage assis.
Ouais.
Qui n'a pas du tout besoin de se dévêtir. Et donc, c'est vraiment un massage complet. Ça veut dire que ce n'est pas la moitié d'un massage. Ce n'est pas un massage du dos. C'est un massage vraiment complet.
Ouais, ouais.
Et puis bah oui, la bianga, bah oui, c'est vrai qu'il faut se dévêtir et peut-être il y a des gens qui ont pas cette, il y a une certaine pudeur selon les cultures. Je pense que les Français sont assez pudiques en quelque sorte. En Allemagne par exemple, moi je suis autrichienne et en Allemagne et en Autriche, les gens ont pour eux, la nudité n'est pas forcément un tabou, quoi. Mmh. Il y a vraiment une façon de vivre naturellement, quoi. Mmh.
Donc ça, tu penses que ça peut être un frein aussi ?
Je pense que ça...
Peut-être ?
Oui, parce que y a du coup une connotation... Une connotation que le massage, ça peut être aussi quelque chose de sensuel. Mmh. Mais c'est... c'est vrai que ça l'est, mais c'est aussi une façon de... Comment dire
Une libération, en fait. Ça va...
C'est le toucher, quoi. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans une culture de se toucher, au Brésil, les gens, ils se touchent.
Mmh. Ouais.
Et
ouais.
Même il y a des tests qui ont été faits par rapport à ça, par rapport au toucher, que dans les pays où les gens se touchent plus, les gens sont plus heureux.
Ah oui.
Parce qu'ils se serrent la main, parce qu'ils se prennent par les épaules, les hommes se tiennent la main dans la rue, sans être forcément des homosexuels.
Oui, oui, oui.
Voilà, il y a tout... Ouais, ouais. Alors qu'en France, il y a un gros blocage, je crois.
Ouais. Intéressant.
Bon.
Eh bien, écoutez... je ne sais pas si vous souhaitez ajouter d'autres choses, peut-être, Philippe, par rapport à ce qu'on vient de dire, les freins au massage ou l'activité en général de l'Ayurveda. Peut-être ajouter...
Le point, c'est de... Si tu veux connaître le goût d'un gâteau, le mieux, c'est de le manger. Mmh. Donc, l'idée, c'est, voilà, c'est d'aller se faire un bon massage. Penser un peu à soi-même. On pense toujours aux autres. Faut aimer l'autre, mais faut aussi s'aimer soi-même. Et je pense que c'est un bon massage. Ça vaut le coup d'essayer, parce que c'est vraiment... C'est bon, quoi, je veux dire. Mmh. Ça, c'est...
C'est relatif au bien-être, comme vous l'avez bien dit.
On voit d'ailleurs que le massage, il y a de plus en plus de masseurs ayurvédiques. Si vous êtes déjà dans les grandes villes, ça s'installe de plus. Mm-hmm. C'est comme dans les années 70, on faisait du yoga, c'était un peu encore très, c'est tout ça. Maintenant, le yoga, il y en a dans tous les, il y en a au pile, il y en a partout, quoi. Je veux dire, tu vois, Bulle-Baronne, dans tous les petits villages, il y a du yoga. Donc, ça prend son. Comme on dit, la maladie vient à la vitesse d'un cheval au galop, mais elle repart à la vitesse d'une tortue. Alors, tout va doucement dans ce sens-là. Donc, mais ça vaut le coup de venir et essayer ce bon massage. Il faut se faire du bien dans la vie, c'est important.
Voilà. Ok.
Donc il y a Natacha là qui est là.
Alors oui, justement Natacha, pour avoir des contacts, pour pouvoir donc toi tu es sur les piles en fait, c'est ça ?
Voilà, moi je suis plus dans la commune de Condorcet, donc pas loin d'ici.
Condorcet,
là,
okay. Ouais,
entre les piles et Condorcet. Je pratique au Chouchalou, peut-être il y a des gens qui connaissent par l'intermédiaire de Radio Olive, puisque
Le Chouchalou, c'est vers la cave coopérative et la boulangerie du pain d'épi, c'est ça. Hein,
c'est un petit lieu où il y a aussi y a du yoga, il y a beaucoup d'ateliers de développement personnel et puis aussi des concerts, des contes, des choses comme ça. Donc ça, c'est Dominique qui s'occupe du lieu, qui propose le lieu et moi. J'ai un lieu là-bas,
okay.
Et mais aussi à Buis-les-Baronnies.
D'accord.
Je peux aussi, si des gens sont plus vers là-bas, je peux aussi leur proposer des massages là-bas. Et j'ai un site Facebook qui s'appelle Minsage, ça c'est mon intitulé, Minsage tout en minuscule. Donc sur Facebook, il y a des photos, il y a les prix. Il y a...
Okay.
Moi, je pratique vraiment des prix très raisonnables par rapport au reste. Et puis, voilà des photos, des événements, etc. etc. Et puis, sinon, je suis... surtout, il faut prendre rendez-vous au 06 44 75 35 35. Mais si vous allez sur Facebook, sur le site Minsage, vous avez tous les renseignements.
Ok, super.
Après, pour Buis-les-Baronnies, je suis aussi sur le site de l'Office du tourisme de Buis-les-Baronnies.
D'accord.
Donc là, c'est facile de me trouver vraiment.
Office du tourisme, super. Eh bien, écoutez, tout à l'heure, Philippe, tu parlais que l'Ayurveda englobait même les sons.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes venu, on a la chance ce soir de vous avoir avec des instruments, donc... Alors je vous laisse vous préparer, puis on va peut-être présenter les instruments par la suite.
Le premier instrument là, que moi je vais jouer, ça s'appelle le mridangam.
D'accord.
C'est un instrument, donc mrid qui veut dire en sanskrit l'argile, mm-hmm. et angam ça veut dire une partie ou un corps. Donc
okay.
Ce mridangam est un instrument donc à percussion qui est fait donc d'argile, ce sont les potiers qui font ça, mm-hmm. et puis les peaux sont, c'est de la peau de vache. Mais, mais c'est la vache qui est morte naturellement,
okay.
puisque les vaches en Inde sont sacrées. Donc voilà. Donc c'est utilisé pour généralement tous les instruments à percussion, tabla et ainsi de suite.
Et donc Natacha, toi, tu as le...
Et à côté, donc Natacha, elle va jouer...
Tempura.
Le tempura et le shwar mangal. Ce sont deux instruments dans un.
Mm-hmm.
Donc c'est un instrument pour accompagner le chant et c'est ce que l'on va faire pour finir cette émission. Vous inviter à écouter des petites vibrations sonores qui font
super.
Du bien aux oreilles et au cœur et à l'esprit. Puisque tout fait partie de cette médecine ayurvédique.
Ok.
Merci.
Alors, quand vous voulez, c'est parti.
Vandeyam Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Chaitanya Devam Sri Radha Krishnam Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha.
Jayo Radha Madhava Kunja Bihari.
Bravo, bravo. Et merci beaucoup pour ce chant indien. Eh bien, merci encore Natacha et Philippe pour votre intervention. On espère que tout ira bien pour vous et vos activités.
Merci, merci, merci.
Donc Natacha, qu'on peut retrouver donc sur le site de l'Office de tourisme de Buis-les-Baronnies et à Condorcet, rappelle-nous l'endroit où tu fais tes massages.
Au Chouchalou.
Au Chouchalou, voilà. Super. Merci Philippe.
Salut à tous.
À une prochaine. Merci Natacha.
Merci.
À bientôt. Une petite chanson et on enchaîne tout de suite sur la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
Happy.
before you go your way. But we play, you go play. You wear your battle dresser to kill your opponent and paralyze yourself. This rough, rough play, Naja Guda way, I say. We get the name for them.
Ici, Radio Livre,
Radio Livre, la radio des initiatives.
Deuxième partie de cette émission, donc en direct du marché des producteurs. Nous sommes bien revenus d'Inde et nous allons aller pas très loin d'ici. On va passer le col de Sauce et nous allons aller à Bouvières parce que devant moi, j'ai des enfants là qui sont venus pour parler de leur école de Bouvières. Donc bonsoir les enfants. Bonsoir, je vais vous laisser vous présenter. Donc, dites-nous votre prénom, s'il vous plaît.
Solène,
Améline,
Flavie,
Candice,
Luana,
Théa,
Janice.
Donc voilà, merci. Et donc en fait, vous êtes à l'école de Bouvières et vous allez nous proposer un petit reportage sur votre école puisque j'ai entendu dire que votre école allait fermer l'année prochaine. Flavie, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ?
Eh bien, on a fait ce reportage radio pour savoir pourquoi l'école allait fermer.
Pourquoi l'école va fermer ?
Oui, voilà.
D'accord. À côté de toi, il y a Candice. Alors Candice, qu'est-ce que tu veux ajouter à ce que vient de dire Flavie ?
travaillé sur comment était l'école avant. On a travaillé à écrire avec la plume. Et du coup, on a interviewé un ancien maître, une ancienne élève. Et voilà. Et pour savoir comment était l'école avant.
Donc vous avez rencontré plusieurs personnes pour construire votre reportage, en fait, c'est ça ?
Et nous, les CM2, on a interviewé le maire de Bouvières et l'inspecteur.
D'accord, donc plusieurs personnes. Donc ce qu'on va vous proposer dans un premier temps, c'est d'écouter le reportage que vous avez fait. Et puis après, on vous redonnera la parole pour en reparler par la suite. Donc à tout de suite, après le reportage.
Ensemble, ici, Radio Livre.
Radio Livre. La radio des initiatives.
Nous sommes les élèves de Bouvières. À la rentrée prochaine, notre école va fermer et nous avons voulu savoir pourquoi. Les CM2 ont donc interviewé le maire et l'inspecteur de l'éducation nationale pour mieux comprendre.
Pendant ce temps, les CPCE se sont demandé comment était l'école avant. Les punitions, les cours, les élèves. Alors ils sont allés rencontrer une ancienne élève et un ancien maître d'école.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Alors, Colette Gamore. Voilà, Colette Gamore.
À quelle époque vous êtes rentrée à l'école avant ?
1945.
Est-ce que vous avez le même matériel que nous ?
Absolument pas, absolument pas. On avait notre crayon, notre porte-plume, avec la plume, hein. Et qu'est-ce qu'on avait ? Le cartable, comme vous d'ailleurs, et un plumier. C'était très important, voilà nos accessoires.
Est-ce que les maîtres et les maîtresses étaient sévères ?
Oui, un petit peu quand même, un petit peu.
Est-ce que vous avez des punitions aussi ?
Des punitions, oui, j'en ai eu des punitions. Je tournais même autour du sol pleureur quand j'étais punie. Ça m'arrivait.
Et est-ce qu'il y avait d'autres sortes de punitions ?
Ouais. Oh, c'était pas très très grave. On copiait beaucoup de choses, beaucoup de leçons à refaire 10 fois, 20 fois. Ça dépendait ?
200 fois.
Oh, peut-être pas, enfin, tout dépendait de l'enfant, comment il s'était comporté. Mais en général, c'était 10 lignes, 10, 20 lignes à faire et à refaire. Si c'était pas bien écrit, s'il y avait une tâche. Ah, c'était sévère. Il fallait pas de page de déchirer ou de... Sinon, on nous l'arrachait et à recommencer.
À quoi jouez-vous pendant les récré?
À la marelle. À la marelle, au ballon, un petit peu. C'était tout, hein.
Et à la corde à sauter ?
Pas vraiment. On allait au terrain de sport, on faisait monter à la perche un petit peu. On jouait là-bas, le terrain de sport, qui est actuellement le camping, mais non. Voilà.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, je m'appelle Gérard Bravet, j'ai été instituteur à Saint-Ferréol-Trente-Pas et maire du village de Saint-Ferréol-Trente-Pas.
Racontez-nous quelles matières étaient enseignées ?
Alors, des matières, elles se sont ajoutées. Moi, dans mon temps, j'ai commencé à être instituteur dans les années 70, c'était surtout le français, la mathématique, les activités d'éveil, ce qu'on appelait les activités d'éveil, c'est-à-dire les sciences naturelles, les oiseaux, le corps humain, les grandes fonctions du corps humain, du chant, du dessin et de l'éducation physique et sportive. C'était surtout ça. Et puis la morale, l'instruction civique.
Et pouvez-vous nous dire quel niveau de classe y avait-il ?
y avait-il ? Alors, moi, quand j'ai été instituteur, parce qu'avant, j'étais professeur d'éducation physique, quand j'ai voulu redevenir instituteur, il y avait j'ai ce qu'on appelait les classes uniques, j'avais tous les niveaux, j'avais les deux sections de maternelle, plus les CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
Et après l'école primaire ?
Après l'école primaire, c'était le collège. Les enfants rentraient au collège. Alors, à l'époque, il y avait un examen qu'on passait à la fin de l'école élémentaire, c'était le certificat d'études à 14 ans. Et on rentrait après au collège, après 14 ans et tout. Aujourd'hui, on rentre au collège après le CM2, après le cours moyen deuxième année. Quand il y avait pas quand l'électricité était encore pas bien en place, parce que nous, à Saint-Ferriol, l'électricité, elle est arrivée en 50 et des poussières. On faisait classe que quand il faisait jour. Et puis quand il faisait plus jour le soir, et bien on faisait plus la classe. Et puis à l'époque, c'était comme les villages étaient plus peuplés, Candice, les classes étaient beaucoup plus nombreuses. Parce que ça allait jusqu'à 14 ans. Moi, j'ai eu 28 élèves en classe unique. Ça a été une année, c'est assez rare. Une autre chose que je peux vous dire et tout, c'est que quand j'étais instituteur à Saint-Ferréol, il n'y avait pas de cantine. Il n'y avait pas encore de cantine parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui mangeaient à l'école. Alors ce qu'on faisait, on débarrassait nos tables, on mettait nos serviettes sur la table comme une petite nappe et je mangeais, c'est moi qui m'occupais de faire, je mangeais avec les enfants qui restaient, qui venaient des villages voisins, des Rôles, de Chaudebonne et tout. Et on mangeait ensemble et puis après on débarrassait la table et on refaisait la classe l'après-midi. Aujourd'hui, ce qui freine un petit peu les activités dans l'école, c'est les gros problèmes de sécurité. Moi, quand j'étais instituteur, avec mes élèves, dans l'année, ça devait être en 78 ou 79, on a fait le tour de la montagne d'Angèle en 3 jours. C'est-à-dire qu'on est parti de l'école, on est allé jusqu'à un col qui s'appelle le col de Maruin, et on est allé dormir chez une dame de Villeperdrix qui s'appelait Madame Sauvebois, qui m'avait dit « Il ne fume pas ses enfants ». Je dis « Non, il ne fume pas », parce qu'on a dormi dans sa remise où il y avait le foin, tu vois. Après, on est reparti, on est allé jusqu'au pied d'Angèle dans une écurie avec les chevaux et tout. On a dormi dans une écurie avec les chevaux. Et le lendemain, on est monté sur Angèle et on est redescendu à l'école. Voilà. Et ça, je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore le faire. Un autre souvenir, mes élèves, comme j'avais beaucoup d'élèves, mes petits CP et mes petites maternelles, ils avaient leur petit maître. Et leur petit maître, c'était un enfant de CM2. C'est-à-dire que quand moi j'étais avec une classe, le petit de maternelle ou le petit CP, il allait voir son petit maître et il essayait de régler son problème avec son petit maître.
Bonjour, donc je suis Philippe Reynaud, le maire de Bouvières. Je suis maire depuis 2 ans et demi, depuis le mois d'avril 2014.
Qu'est-ce que ça va changer dans le village que l'école ferme ?
Alors ce que ça va changer dans le village. Donc l'école est au cœur du village, ça fait partie de la vie du village. Quand vous êtes en récréation, tout ça, on entend les enfants... S'amuser et tout ça, donc ça anime le village. Après, il y a les parents qui se rencontrent le matin et le soir. Et puis aussi, c'est tout ce qui est lien social qu'on n'aura plus avec l'association des parents d'élèves qui organise 2 à 3 activités par an. Après, il y a ce que ça va changer entre vous, les enfants. Vous connaissez tous, là, sur le village, parce que vous êtes à l'école ensemble. Et là, vous allez être dispatché dans 3 écoles différentes, donc vous aurez plus cette affinité que vous avez actuellement, cette cohésion, on va dire.
Est-ce que que ça vous demandait beaucoup de travail, l'école?
Ça demandait du travail, mais c'était un travail plaisant. On travaillait pour vous. Donc toutes les personnes un peu plus âgées que vous qui sont à la commune, même les parents d'élèves, tout ça, on travaillait pour les enfants de Bouvières à la commune. Donc ça nous demandait du travail, mais on le faisait avec plaisir, puis ça, c'était surtout pour vous.
Le bâtiment de l'école, qu'est-ce qu'il peut devenir?
Donc le bâtiment de l'école, il restera dans l'état qu'il est actuellement. On va conserver les deux classes parce qu'on espère que d'ici quelques années, on pourra réouvrir une classe ici. Donc on va le conserver comme il est, puis on pourra organiser quand même les lotos du club des anciens ou alors des autres associations qu'il y a, mais comme il n'y en aura plus parce qu'il n'y aura plus que le club des anciens qui pourra se servir de cette classe.
Mais vous, ça vous plaisait quand même que l'école soit ouverte?
Ah oui, l'ensemble des habitants de Bouvières étaient très fiers d'avoir encore leur école. Et ça nous enlève quelque chose, on perd quelque chose. Bouvières tourne une page de vieille de un peu plus de 120 ans, je crois. Depuis 1880 qu'il y a l'école sur Bouvières.
Alors, comment on aurait pu empêcher la fermeture de l'école?
Alors, on aurait pu empêcher la fermeture de l'école, c'est l'éducation nationale qui aurait pu empêcher cette fermeture-là. La commune a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a investi régulièrement, elle a refait pas mal de logements, tout ça. Mais bon, vu le manque d'élèves à la rentrée prochaine, on pouvait pas faire autrement, je pense.
Vous aurez bien aimé faire venir plein d'autres enfants à Bouvières?
On aurait aimé, mais se pose le problème des logements et du transport.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît?
D'accord. Donc, je suis Pierre-Jean Verne et je suis l'inspecteur de la circonscription de Nuance pour la 7e année.
Pourquoi ferme-t-on des petites écoles?
Alors, on ferme des classes et quelquefois, les toutes petites écoles n'ont qu'une classe. Donc, du coup, c'est toute l'école qui ferme. Mais il faut savoir qu'ailleurs, dans des grandes écoles, on ferme aussi les classes. Et quand on ferme une classe dans une école, c'est pour en ouvrir une autre, dans une autre école où il y a davantage d'élèves. Hein, donc c'est un équilibre entre les classes qui ferment et les classes qui ouvrent. Voilà.
Que font les élèves et les enseignants après?
Alors les familles ont le choix, en fonction de leur domicile, scolariser leurs enfants dans différentes écoles de proximité. C'est ce qui se passe pour Bouvières. Et les enseignants, eux, font des vœux sur différentes écoles de leur choix et ensuite sont affectés sur d'autres écoles. Et il faut savoir que quand il y a une fermeture de classe, l'enseignant a une priorité sur d'autres enseignants dans ce mouvement. Voilà.
Et les écoles peuvent-elles réouvrir après?
Absolument. Si la situation change et qu'il y a beaucoup d'élèves qui peuvent être scolarisés dans le village en question, l'école peut rouvrir, c'est possible. Ouais, oui.
L'école de Bouvières va fermer et depuis combien de temps vous avez pris cette décision?
Alors, donc il faut savoir que ce n'est pas moi qui prends la décision, mais la directrice académique du département de la Drôme. C'est ce qu'on appelle la carte scolaire. C'est-à-dire que dans le département de la Drôme, il y a un certain nombre de postes, de classes, et donc on essaie de garder un équilibre entre les classes qui ouvrent et les classes qui ferment. Et c'est la directrice académique qui a cette vision d'ensemble, qui sait ce qui se passe dans tous les endroits de la Drôme. Donc voilà, donc cette situation elle est quand même connue depuis assez longtemps puisqu'on sait qu'il y a très peu d'élèves à Bouvières. Donc on imaginait qu'à un moment donné cette décision allait être prise, quoi. Et puis quand il s'est confirmé qu'il y avait vraiment très très peu d'élèves attendus, eh bien la décision a été prise. Et ensuite, elle est prise dans des comités officiels qui regroupent la directrice académique, les inspecteurs comme moi des différentes circonscriptions de la Drôme et les représentants des personnels qui représentent les enseignants. Voilà.
L'année prochaine, l'école de Bouvières va fermer. Les CM2 iront au collège de Nyons, les CPCE iront à Vesque, Saint-Fariol-Trempas et Bordeaux. Nous aurons toujours de beaux souvenirs de cette école, mais l'aventure continue.
Bravo pour ce reportage, superbe, je vais vous applaudir. Et pour la chanson qu'on vient d'entendre, elle est très jolie. Solène, tu as un micro dans la main, parle-nous un peu de cette chanson. C'est vous qui l'avez écrite ?
Non.
Ah, mais c'est vous qui l'avez chantée ?
Oui.
Alors qui l'a écrite ?
Les Enfants Fantastiques.
D'accord. Alors donc tout au long de ce reportage, on a pu entendre et comprendre que l'école de Bouvières allait fermer, donc que c'était donc une classe unique. On a notamment entendu une intervention de la maîtresse qui était cette année avec les enfants, qui s'appelle Émilie, qui est là avec nous, et Fleur aussi, qui était avec elle. Et donc là, nous avons les enfants qui sont toujours avec nous. Donc vous allez nous parler un peu de ce reportage que vous avez réalisé. Il est très très beau ce reportage. Qu'est-ce que vous avez préféré faire dans vos interventions ? Parce que vous avez dû faire plusieurs choses. On entend des interviews. On entend à un moment une petite activité de cup song. On va en reparler tout à l'heure. Janice, tu es avec nous. Qu'est-ce que tu as préféré faire, toi ?
Ben, j'ai préféré faire les interviews. J'ai préféré faire les interviews. Mmh. Et vu que c'était allait être sérieux, mais c'était bien.
D'accord. Donc tu as préféré faire les interviews. Je répète parce que je ne suis pas sûr qu'on t'a entendu. C'est ça. Alors comment vous aviez fait ? Vous prépariez les questions avant ?
Oui.
En classe donc ?
En classe et pour l'inspecteur, on a fait pile avant de l'interview.
D'accord. Donc ça n'a pas dû être très facile.
Oui, donc c'était un peu...
On a un petit souci technique, je ne sais pas si on entend ce que tu dis. Si, c'est bon ? Il faut que tu parles bien près de ton micro. Voilà. Donc tu disais que pour l'inspecteur, vous avez fait ça juste avant qu'il arrive, en fait.
Vu que c'est là qu'on a su qu'il accepte.
Pas d'étonne, hein, de toute façon...
Alors, je peux passer le mien. Non, je crois qu'on n'entend pas. Sinon, on va changer de micro. Excusez-nous, on a un petit contretemps. Alors, vas-y, on t'écoute, Yanis.
Ben, c'est là qu'on a su que, qu'il était d'accord pour être interviewé. Donc, on n'a pas trop...
Donc, toi, tu as bien aimé cette partie interview.
Oui.
Tu n'étais pas trop intimidée?
Ben, un peu, mais bon, j'ai...
T'as su faire quand même sur le moment. Ben, bravo. À côté de toi, il y a Théa, c'est ça?
C'est
Théa?
Oui, c'est ça.
Alors toi, Théa, qu'est-ce que tu as préféré faire?
Moi, c'est les ambiances que j'ai préféré faire.
Oui.
Parce que ben, la cup song, puisqu'on la connaît bien, c'était bien à faire. Pareil pour les chansons, c'est ce que j'ai préféré faire dans tout ça.
Alors du coup, tu parles de la cup song. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste?
La cup song, c'est une musique avec des gobelets. Mmh. Et... on l'a apprise cette année et on va la faire pour le spectacle de fin d'année.
D'accord. Merci Théa. Alors je te laisse passer le micro. À côté de toi, il y a Louana. Louana, toi, qu'est-ce que tu as aimé faire dans ces reportages?
Les bruitages.
D'accord. C'est-à-dire les bruitages alors? Qu'est-ce que tu faisais?
Les chansons, ouais. et la cap song.
D'accord. Toi, tu étais en quelle classe, Louana?
En CE2.
CE2, d'accord. Solène, tu voulais rajouter quelque chose? Je vois que tu me regardes. Alors, dis-nous, par rapport au reportage, qu'est-ce que tu as aimé faire? Prends le bon micro, oui. Voilà, vas-y, on t'écoute.
Les interviews. Et les ambiances.
Les interviews et les ambiances.
Oui.
Donc toi, tu as interviewé quelqu'un en particulier?
Oui, l'inspecteur.
Waouh, l'inspecteur. Alors, qui d'entre vous a interviewé le maire? Alors, donc, c'est Flavie et Candice. Non, pardon. Ah, Améline et Flavie, pardon. Excusez-moi. OK. Et qui a interviewé l'ancien instituteur qui est Gérard Bravet, il me semble, c'est ça? Ah, c'est Candice. Ok. Très bien. On va peut-être finir avec le... Alors, en guise de conclusion, donc, merci en tout cas pour toutes vos interventions, les filles. Et bravo, hein, parce que c'est pas facile de faire ça en primaire. Donc c'était un très beau reportage. Pour conclure,
une petite question aussi. Merci. Parce que du coup, on s'est vu plusieurs fois pour faire ce reportage. Du coup, on entendait tout à l'heure ambiance, interview. Est-ce que vous vous rappelez comment, du coup, quels sont les sons qu'on prend pour faire un reportage? Et qu'est-ce que vous avez pris comme son? On avait fait la liste pour faire tout ça.
On a pris le clocher, l'église. Les bruits du village et la classe, la cour de récréation et les chansons et la cup song.
Et avec tout ça, en plus, vous avez fait ça de manière très rapide parce qu'en un mois, on s'est vu il y a un mois, et en un mois, vous avez fait un reportage, plein d'interviews, plein de son d'ambiance, et vous avez réussi à faire un super beau reportage, je trouve. Donc bravo à vous. Tu voulais rajouter un mot?
Et aussi, on voulait dire merci à Théo et à Aymeric qui nous ont aidés pour faire ce reportage. Et aussi, on voulait dire merci à ceux qu'on a interviewés pour avoir accepté notre invitation.
Eh bien, c'est dit. Merci. Merci à vous, en tout cas. Écoutez, on vous souhaite à tout le monde une bonne continuation. On a compris que vous serez dans plusieurs écoles l'année prochaine. En tout cas, bravo encore pour votre action et votre implication. Et du coup, tu parlais de la fête de fin d'année. Tu peux nous dire quand elle aura lieu? Alors, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi.
Alors,
c'est Louane. C'est Théa.
Elle aura lieu mardi prochain à Bouvières.
D'accord, donc rendez-vous mardi prochain à Bouvières. Je crois qu'on sera le 5 juillet, c'est ça. Voilà, rendez-vous à Bouvières, mardi 5 juillet. Merci encore. C'était la classe unique de l'école de Bouvières. Et bien sûr, pour conclure, on va donner la parole à Émilie, l'institutrice de l'école.
Juste un dernier mot pour féliciter toute la classe
qui, comme disait le Théo, en un mois, a mis toute son énergie pour réaliser ce reportage. Je trouve que c'est un très, très beau résultat. Et je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont énormément appris et, de manière naturelle. Et ils ont fait des progrès assez hallucinants, je veux dire, énormes. Voilà, bravo à vous. Et c'était vraiment une belle énergie.
Eh bien, merci Émilie et merci pour ton travail. Et bravo encore les enfants. Bonne continuation à tout le monde et bonne soirée. On vous laisse, on est toujours en direct du marché des producteurs. À très bientôt, à lundi prochain pour la Radio Buvette. Bonne soirée, au revoir.
Radio Libre.
Ensemble, ici, Radio Libre,
Radio Libre,
la radio des initiatives.